Vous m'en direz des nouvelles.
Jean-François Cadet,
Baptiste Antoine,
Pierre Plantier.
Bonjour, bonsoir. Quelle différence entre le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne? Quels sont les pouvoirs réels de la Commission et du Parlement européen? Qu'est-ce que le COREPER ou une réunion trilogue? Qu'est-ce qu'un pinot? Combien de langues officielles parle-t-on dans les couloirs plus ou moins feutrés de Strasbourg ou de Bruxelles? Comment les 27 parviennent-ils à se mettre d'accord? Les réponses à toutes ces questions et à quelques autres sont dans l'album de BD dont nous allons parler aujourd'hui. Un album qui mélange le pédagogique et l'anecdotique, le didactique et l'humoristique pour nous faire pénétrer les arcanes de l'Union européenne dans les villes qui abritent les institutions de l'UE, mais aussi à Stockholm, Berlin, Varsovie, Athènes et même Tirana, San Francisco et Kiev, avec un BD reporter infiltré qui a déjà quelques coups de crayon à son actif, Cocopello. Son album La Tour de Babel, voyage au cœur du grand bazar européen, est disponible en coédition d'Argo Seuil et vous m'en direz des nouvelles. Bonjour Cocopello.
Bonjour.
Votre premier album de BD est paru en 2021 chez les mêmes éditeurs. Il s'intitulait Palais Bourbon, les coulisses de l'Assemblée nationale. Là, on est clairement dans la même veine. En fait, vous avez raté votre carrière de député ou d'eurodéputé ?
Non, je n'ai pas forcément envie de me lancer dans la politique. J'aime bien être observateur, un peu au-dessus de la mêlée. Ça me permet de pousser des portes que personne ne pousse jusqu'ici.
Qu'est-ce qui vous intéresse justement dans ces institutions politiques, comme les parlements en l'occurrence ?
C'est de voir un monde que je ne connais pas du tout et d'être un petit peu curieux, de pousser différentes portes. Et puis avec mon carnet et mon crayon de dessinateur, j'arrive à en pousser pas mal. Donc je trouve ça très bien d'aller voir directement ce qui se passe sur le terrain.
Ça, c'est une démarche très journalistique finalement.
C'est un peu une démarche dans le journalistique, mais ne le dites pas trop aux politiques parce qu'ils me laissent entrer plus loin que le cercle habituel des journalistes justement. Parce qu'ils pensent que je suis auteur de bande dessinée et on a une image quand même assez naïve. On pense qu'on fait des Mickey, des Donald. Mais en fait, c'est un peu plus profond que ça.
Bon, il faut que... Oui, effectivement, quand on se lance dans la lecture de l'album, on a clairement l'impression quand même d'un travail très approfondi, très sérieux. On va y revenir. Alors, reporter ou auteur de BD, on dit embedded.
Embedded, c'est très bien.
Pour les anglo-saxons. Donc en français, embarqué. Et ça tombe bien parce qu'embarqué, c'est le nom de la collection que dirige Mathieu Sapin chez Dargo, qui lui aussi nous a fait pénétrer dans les coulisses de la politique, de la presse ou du showbiz, puisqu'il a passé 5 ans dans les pattes de Depardieu. Est-ce que vous êtes un bébé sapin, Cocopello ?
Je ne sais pas si je suis un bébé sapin. En tout cas, je m'entends très bien avec Mathieu.
C'est
il
mieux,
a lancé
c'est votre
cette
directeur.
Collection. C'est mieux, quand même. Oui. Pour avoir les différents financements pour faire mes bandes dessinées, c'est quand même mieux. Mais non, je marche un petit peu dans ses traces. Et puis aujourd'hui, il y a beaucoup d'auteurs de bandes dessinées qui font de la bande dessinée embarquée. Moi, je trouve ça très bien. Ça permet de montrer d'autres émotions, un autre regard sur beaucoup de sujets. Donc, c'est parfait.
Alors, comment se fait embarquer dans les coursives de l'immense paquebot européen?
Justement, j'avais fait d'autres albums de bandes dessinées avant sur la politique française. Donc, c'était assez facile pour moi de pousser certaines portes. Alors, au début... Bien sûr, je ne savais pas du tout comment fonctionnait cette Union européenne. Je me suis un petit peu planté, je me suis pris des portes fermées aussi. Et la première fois que j'arrive à Bruxelles, c'était au Conseil européen. Donc j'arrive en juin 2022, je me dis « Allez, c'est bon, je me lance, je commence à prendre des accès, etc. » Le service de presse m'accepte. Et en fait, je croise la route d'un Italien qui s'appelle Federico Balgini, qui m'ouvre les portes parce qu'il était persuadé que, un, j'étais italien.
Oui, et que Cocopello.
Cocopello, voilà. Et que, deux, la bande dessinée... Ces gamins adorent ça. Et donc, ils voulaient absolument faire entrer dans les institutions européennes un auteur de bande dessinée. Et c'est comme ça que j'ai eu mes premiers accès.
Alors, on s'en rend compte au fil de la lecture. Vous avez pu suivre des commissaires européens, des députés, des ministres. Vous êtes même immiscé dans l'entourage d'Emmanuel Macron lors d'un Conseil européen. Comment est-ce que vous avez convaincu vos différents interlocuteurs de vous laisser les accompagner ?
J'avais d'autres albums à mon actif. Et puis, je voulais leur dire, personne n'y connaît rien dans l'Union européenne. Et au fil de mes voyages, je me suis aperçu que de Varsovie à Tirana à Athènes, personne n'y comprenait rien. Et je me suis dit, jamais il y a eu de bande dessinée embarquée sur l'Union européenne. À chaque fois qu'il y a des sujets européens, c'est écrit par des journalistes qui sont directement dans la bulle médiatique européenne, qui traitent peut-être pas forcément du sujet avec beaucoup de recul. Allons-y, je vais faire un travail véritablement citoyen. Et généralement, avec ce discours, ça passait, mais ça passait avec les Français principalement, parce que les Français ont cette culture de la bande dessinée. Et c'était beaucoup plus difficile pour moi d'aller voir des Allemands, des Grecs ou des Italiens qui n'ont pas forcément cette culture-là de base.
Alors, le but, c'était pour vous de vous fondre le plus possible dans le décor, d'être le plus discret possible, voire même invisible ?
Oh, une sorte de plante verte, en quelque sorte. C'est que, en fait, moi, j'arrive avec mon carnet à dessin, mon crayon, j'ai pas de caméra.
On vous voit d'ailleurs sur la couverture de l'album, hein, à gauche, avec effectivement votre carnet, votre crayon. Vous êtes gaucher ?
Je suis gaucher, voilà, exactement.
Ouais, petit détail, voilà, oui.
Tout est voilà. Vrai dans cette bande.
Et donc, vous
dessinée.
Êtes comme ça dans le coin de la page, comme vous étiez dans le coin des différentes pièces auxquelles vous avez eu accès à Bruxelles, Strasbourg et ailleurs.
Oui, c'est ça. C'est que j'essaye de passer aussi beaucoup de temps avec un interlocuteur, donc avec un commissaire européen. Je vais suivre toute une journée. Je ne vais pas faire juste une heure d'interview avec lui. C'est que je vais passer une journée jusqu'à ce qu'il m'oublie. Et dès qu'il y a des séquences un peu plus intéressantes pour moi, à ce moment-là, je le trash avec le dessin directement. Et puis, je me dis, bon, bah, alors ça, je vais le mettre dans l'album et je fais mon tri ensuite.
Bon, parfois, vous avez quand même un chaperon, même assez souvent. C'est vous qui souhaitiez avoir comme ça un guide, un cicérone, ou bien on vous a imposé d'avoir quand même quelqu'un à vos basques pour vous guider et peut-être, je ne sais pas, vous contrôler.
Non, pas du tout. Personne n'a cherché à me contrôler dans ce travail. Alors oui, il y a certains accès. Quand je vais suivre le cercle diplomatique d'Emmanuel Macron qui est en train de négocier avec des Italiens, des Grecs, des Irlandais, bon, bah là, forcément, c'est des salles qui sont quand même très fermées. Donc, j'étais toujours accompagné de quelqu'un. Mais dans le reste de mes déplacements, j'y vais tout seul et c'est moi qui choisissais mes interlocuteurs. En tout cas, c'est, oui, cette bande dessinée embarquée où je me représente directement. Je vais à la rencontre de tout le monde. Et puis, j'aime bien aller demander directement à quelqu'un, mais qu'est-ce que vous faites en fait ?
Oui, on a un peu l'impression que beaucoup de gens finalement sont assez contents de parler, de communiquer, parfois de mettre un peu en valeur leur travail, surtout les petites mains, quoi, qui ne sont pas forcément sous le feu des projecteurs.
Bah, les petites mains, c'est assez facile, ouais, parce que surtout dans l'Union européenne, ils font un travail qui est assez incroyable. Je pense notamment aux interprètes du Parlement européen. Je me retrouve dans une cabine avec une interprète à un moment et qui était ravie de m'ouvrir sa cabine, qui est habituellement fermée à tout journaliste, toute presse, et qui était ravie de me parler de son travail. Et moi, j'ai pu dessiner la manière dont elle travaillait. Et voilà, on se rend compte que c'est d'utilité publique.
Sur votre carnet, vous ne faites que des dessins ou bien vous prenez aussi des notes ? Je sais pas, vous prenez des photos aussi ? Vous avez une caméra ? Vous avez un enregistreur ?
Alors, tout le monde est persuadé que je fais plein de dessins et de croquis. Donc, à chaque fois, ils essayent, mes différents interlocuteurs essayent de jeter un œil sur ce carnet à dessins.
Ouais.
Mais en fait, je note énormément. Donc en fait, quand j'arrive, je dis oui, je vais vous dessiner. Donc ils sont ravis d'être dessinés. Alors ça, il y a le côté, je vais rentrer dans la pop culture.
Ouais.
Mais à côté, en fait, moi, j'écris et je raconte justement dans mes carnets tout ce qui se passe, tout ce que je peux entendre. Donc je vais dire, ah tiens, à ce moment-là, je me suis ennuyé. À ce moment-là, j'ai eu froid. C'est vraiment du ressenti. Et c'est là que c'est la force de la bande dessinée embarquée. On embarque avec nous le lecteur et on l'embarque de façon beaucoup plus humaine qu'un autre récit qui serait fait, par exemple, par un journaliste et un dessinateur.
Mais tout ça sur un carnet, donc pas d'enregistreur vidéo ou son.
Alors parfois, j'enregistre discrètement.
Oui. C'est autorisé ou...
Pas forcément.
Pas forcément, ouais.
Je le dis pas forcément. Ouais. Alors en fait, j'ai mon carnet à dessin et puis des fois, je prenais mon téléphone portable et hop, j'enregistrais discrètement une conversation. J'essaie de le faire au minimum. Mais quand il faut avoir certains propos ou quand c'est un peu trop rapide pour moi pour suivre la conversation pour X raisons, j'enregistre discrètement en plus pour ne rien louper. Et évidemment, je garde tout ça pour moi.
Tous ces éléments-là, après, il faut évidemment les garder, les digérer et en faire un récit dessiné. Alors comment on procède, Coco Pelo ?
Eh bien, on procède, alors, un, avec ses carnets. On procède ensuite avec certaines photos et vidéos que je pouvais faire dans certains lieux. Et je procède aussi beaucoup avec la mémoire. C'est-à-dire que quand je sors d'une aventure, je vais dire, bon, ben voilà, j'ai suivi Emmanuel Macron avec ses sherpas diplomatiques qui négociaient face aux Grecs. D'accord. Quelle séquence est intéressante ? Ben, en fait, là, j'allais voir mes amis qui ne sont pas du tout dans la politique et je leur racontais des anecdotes et je regardais l'anecdote qui fonctionnait le mieux. Et à ce moment-là, je pouvais faire le tri en me disant, bon, je vais en profiter pour expliquer de façon très concrète ce qu'est un Conseil européen. Et puis à côté, je vais mettre une anecdote un peu rigolote, un peu humoristique, qui intéresse véritablement les gens et qui les mette en condition.
Est-ce que vous avez eu énormément de travail de préparation en amont ? Vous vous êtes enquillé des manuels de droit européens, toute une série d'essais écrits par des politiques ou pas, des revues des think tanks ou pas du tout ?
Oh, pas du tout.
Pas du tout. L'idée, c'était d'arriver le... J'ose pas dire le plus béotien, mais on va dire le Le plus naïf possible.
Il faut absolument arriver avec une grande naïveté. Moi, je pense que c'est très bien pour saisir les différentes ambiances. J'avais peur, en lisant, avant d'entrer dans cette aventure, des ouvrages un petit peu techniques de journalistes de la bulle européenne, d'être en quelque sorte pollué par certaines idées. Et j'avais peur de me dire, bon, bah vas-y, je vais partir dans tel ou tel endroit. Je vais aller croquer, je ne sais pas, le conflit qu'il y a entre Charles Michel, le président du Conseil, et puis Ursula von der Leyen, la présidente de la Commission. Mais en fait, ce sont des histoires qui n'intéressent pas forcément les gens. Et pour arriver à dessiner véritablement cette Europe de façon plus humaine, il fallait que j'y aille avec une naïveté totale. Donc je n'ai rien lu. Et je ne savais même pas ce qu'était un commissaire européen avant de commencer cette aventure.
La nuit on rêve de l'Italie, l'Italie en mangeant un risotto. Désillusion, je me réveille sur un lit d'auto. J'ai de nouveaux trous dans la peau, tu sais c'est pas nouveau. J'ai besoin d'un nouveau cœur, Cupid on passe dans ce mi-auto. Cet enfoiré m'a flingué en plein cœur. Les impacts de balles ont formé un logo. Allô maman, j'ai bobo. J'suis tombé si bas, j'ai trop mal au dos. J'ai gardé de mauvais réflexes. J'ai toujours un flingue qui peut rafaler comme réflexe. C'est un pour les billets de banque, deux pour les billets de banque. J'aurais dû coffrer, elle veut la maison. L'hiver arrive, c'est bientôt la saison. J'suis plus dans la queue trop, j'fais plus de livraison. Les billets de banque m'ont fait perdre la raison. Les biches m'avaient dans la peau, dans le cellulaire. Je suis tombé pour elle dans la cellulaire. Adrénaline, stress. Cette ancienne vie me manque presque.
La nuit on rêve de l'Italie, l'Italie en mangeant un risotto. Désillusion, je me réveille sur un lit d'auto. J'ai de nouveaux trous dans la peau, tu sais c'est pas nouveau. J'ai besoin d'un nouveau cœur, Cupid on passe dans ce mi-auto.
Risotto, Prince Wally dans la playlist RFI et dans VMDN sur RFI. Risotto rime avec Cocopello. Tout le monde, donc, vous prenez pour un Italien, vous c'est le disiez fort. Tout à l'heure, à l'instant, à l'antenne. Mais on n'a pas expliqué pourquoi vous avez choisi ce pseudonyme, parce que c'est un pseudonyme.
Oui, c'est un pseudonyme. Je l'ai choisi au moment où je rentrais dans la politique. Alors, il faut savoir que j'étais un grand fan de Mickey, de Donald. Quand j'étais petit, je lisais toujours les mêmes. Et dans une de ces histoires, Donald se fait happer par un esprit du nom de Cocopelli, qui est un esprit du sud-ouest des États-Unis, dont le dicton est de ne jamais prendre la vie trop au sérieux. J'avais trouvé ça super quand j'étais petit. Au collège, je l'avais mis en pseudo MSN Messenger. Ouais. Et au moment où j'ai commencé mes activités de BD reporter, je me suis dit, puisque je travaillais dans le milieu du cinéma à l'époque, aujourd'hui je fais dessinateur à plein temps, je me suis dit, bon bah, protège-toi au cas où, mets pas ton vrai nom, et mets Cocopelli qu'on a changé en Cocopello pour me l'approprier.
Alors, vous ne prenez pas non plus trop au sérieux l'avis de ces institutions européennes, même si vous vous montrez très pédago, hein, ce qui rime aussi avec Cocopello. Moi, qu'on puisse dire, c'est qu'il y a du boulot, là aussi, ça rime, mais on ne va pas continuer comme ça pendant toute l'émission, je vous rassure. Tout est complexe, hein. L'Europe, on se dit, c'est extrêmement rébarbatif. Alors, c'est peut-être une banalité que de le dire, mais en bon dessin, c'est toujours plus clair qu'un très long discours.
Oui, en une page, on résume des heures et des heures de cours de sciences politiques. Et puis, l'Union européenne, on dit à chaque fois, oui, c'est compliqué, c'est loin des gens, etc. C'est peut-être une manière de tirer le citoyen en dehors de cette Union européenne, c'est un petit peu dommage. Bruxelles et Strasbourg, il faut bien se dire, c'est des sujets qui sont très concrets, qui sont proches du citoyen. On va parler enjeux climatiques, on va parler crise migratoire, crise de l'énergie, prix de l'énergie. Enfin voilà, énormément de choses qui nous touchent toutes et tous dans notre quotidien. Et ce n'est pas si complexe que ça quand on regarde la globalité du fonctionnement de cette institution. L'articulation entre les trois institutions européennes, c'est parfaitement compréhensible. Par contre, quand on rentre dans le détail, ça effectivement, ça se complique un petit peu. Mais c'est comme la politique française. On a l'Assemblée nationale, le Sénat, la présidence de la République. On comprend globalement comment ça se passe. Par contre, quand on rentre dans le millefeuille administratif français des collectivités territoriales, etc., moi, je suis incapable de vous expliquer ça.
Alors, par exemple, donc, vous expliquez le budget européen à travers un dialogue sur trois pages, dialogue avec la directrice générale du budget, dialogue reconstitué, imaginé ou...
Non, véridique, évidemment. Véridique, j'ai rencontré Stéphanie Rizzo, qui s'occupe du budget de l'Union européenne, et qui m'a dit « Ah bah, mes gamins adorent la bande dessinée, vous êtes le rendez-vous le plus important de ma journée. »
Je suppose qu'elle avait pas mal comme entrée en matière, oui.
Par rapport à ça, et elle m'a expliqué avec ses mots le budget de l'Union européenne, en me disant que c'était une sorte de monstre qu'on imaginait, un petit peu mythologique, et je me suis dit « Bah très bien, on va en faire un bon dessin, et on va expliquer de façon claire comment ça fonctionne. »
Alors, il y a des cartes, il y a des schémas, il y a des tableaux, c'est un petit peu ce que vous expliquiez tout à l'heure. Vous faites des essais dans votre entourage et vous voyez si c'est suffisamment clair, c'est ça?
Oui, c'est ça. Il y a des fois, je fais une sorte de notice IKEA, justement, où je reprends les codes d'IKEA pour montrer la différence entre conseil européen et conseil
européen. Il y a même des petits cadeaux graphiques au logo IKEA, d'ailleurs.
Voilà, que j'avais changé en IKEA dans l'album, effectivement. Mais oui, avec une planche, un bon dessin, en fait, on s'aperçoit que ce n'est pas si compliqué que ça.
Alors, vous mélangez souvent le pédagogique et l'anecdotique aussi. Vous parlez, par exemple, du jus de pomme sur le pupitre de Viktor Orban, le Premier ministre hongrois, ou des asperges que l'on mange à Strasbourg. Alors ça je ne savais pas que c'était une tradition de manger des asperges pendant les sessions du Parlement européen à Strasbourg.
Je ne savais pas non plus, mais c'est la présidente du Parlement européen, la maltaise Roberta Metsola, que je suis durant toute une journée, qui me dit « Ah bon, bah écoutez, là, il faut que j'aille manger des asperges avec la mairesse de Strasbourg. À première vue, c'est une tradition à Strasbourg, les asperges. Je serais bien allé avec elle, mais j'avais trilogue à ce moment-là. »
Alors, c'est quoi trilogue? Ouh là là, parce que là, vous employez un terme que... Faut connaître le trilogue. C'est quoi un trilogue?
Trilogue, c'est les trois institutions de l'Union européenne qui se mettent d'accord, donc Conseil européen, Commission et Parlement, où chacun amène une dizaine de personnes et puis en fait ils se mettent dans une salle jusqu'à trouver en fait un accord législatif.
Le temps que ça durera.
Le temps que ça durera, ça peut durer jusqu'à 4, 5, 6 heures du matin, jusqu'à très très tard dans la nuit, parce que, faut se dire, c'est une sacrée foire d'empoigne entre le Parlement européen, les eurodéputés, et puis le Conseil européen et le Conseil de l'Union européenne, qui sont les chefs d'État et les ministres de gouvernement.
Alors, Roberta Metsola fait partie des nombreuses personnalités que vous avez rencontrées, avec elle, pas de problème, hein, à un moment donné, c'est elle-même qui vient vous chercher, hein. En revanche, beaucoup plus compliqué d'approcher le président ukrainien Volodymyr Zelensky, évidemment, encadré par de solides gaillards. Vous vouliez lui offrir un dessin, vous l'avez gardé parce que vous n'avez pas réussi à lui donner.
Non, j'ai essayé de le faire passer via une journaliste, mais je ne sais pas de quoi est devenu ce dessin, justement. Et puis, c'est assez marrant, quand on partait à Bruxelles et à Strasbourg et qu'on voyait les Ukrainiens arriver, on les voyait de loin parce qu'ils sont en treillis militaire et ils sont gaulés comme des armoires, alors que à côté, les assistants européens sont plutôt frêles. Quand même.
Voilà, et si j'évoque Zelensky, c'est parce que cet album parle certes de l'Union européenne, mais l'Ukraine est vraiment omniprésente. L'album commence d'ailleurs par votre départ en novembre 2023 d'une gare polonaise pour aller en Ukraine et se termine dans le train du retour. Pourquoi vous avez fait ce choix-là?
Je me suis intéressé à l'Union européenne avec cette guerre en Ukraine, où j'étais embarqué dans une autre aventure, carnet de campagne sur la présidentielle française. Je me retrouve dans le bureau du secrétaire général des Républicains, qui me dit, qui me raconte le meeting raté de Valérie Pécresse, etc. Et c'était le jour de l'invasion russe. Et je me suis dit, à ce moment-là, bon, il y a la politique française, oui, c'est intéressant, mais là, je déconnecte un peu avec ce qu'il dit. Il y a une guerre qui se passe aux portes de l'Europe. Moi, je suis né en 91. J'ai jamais connu la guerre sur le sol européen. Et je me dis, bon, là, il y a peut-être un sujet qui nous dépasse. Je vois qu'on sort des drapeaux européens dans la rue et je me dis, c'est quoi la signification de ces drapeaux? Allons voir de plus près ce qui se passe véritablement. Et c'est quoi cette solidarité européenne envers un pays dont on n'entendait jamais parler avant?
Et vous êtes allé jusqu'à Kiev? En l'occurrence, sacré risque quand même pour une bande dessinée. C'était une obligation presque morale pour vous d'y aller?
Oui, je voulais absolument y aller. Vous l'avez dit, je me suis quand même déplacé à travers toute l'Europe. Et puis, ce conflit ukrainien a quand même beaucoup soudé les Européens. Moi, je commence à m'intéresser à l'Union européenne avec cette guerre. Et je voulais absolument me rendre à Kiev pour interroger quelques Ukrainiens sur place et voir véritablement ce qui se passe, quelle est la situation d'un pays en guerre. Et c'est vrai que je découvre une démocratie qui est assiégée, un parlement où quand vous rentrez, vous avez des gardes à l'entrée. Et puis, Kiev qui est quand même sous le joug des bombes russes, avec des alarmes de temps en temps. Et oui, à ce moment-là, on se dit, qu'est-ce que je fous là? Mais deux, oui, c'est important. Et il faut rappeler aussi que la Russie a envahi l'Ukraine, aussi parce que l'Ukraine voulait se rapprocher des idéaux européens, des idées européennes, de cette démocratie-là. Alors que nous, à l'Ouest, on oublie beaucoup à quel point cette démocratie, elle est précieuse.
Today, we have decided to recognize the European perspective of Ukraine, Moldova and Georgia. We have decided to grant candidate status to Ukraine and Moldova. And we are ready to grant candidate status to Georgia once priorities will be addressed. C'est un message très fort qui est adressé, à la fois un message d'unité, un message de détermination sur le terrain géopolitique.
Voilà, le président du Conseil européen, Charles Michel, en anglais avec son accent belge, puis en français avec son accent belge, au sujet des demandes d'adhésion de l'Ukraine, de la Moldavie et de la Géorgie. C'était à Bruxelles à l'issue du Conseil européen des 23 et 24 juin 2022. Cocopello, vous y étiez, c'était même votre premier Conseil européen. Hein.
C'était mon tout premier Conseil européen.
Voilà,
ouais.
Avec des images très très fortes dans l'album. La couverture d'ailleurs, c'est le doorstep, c'est-à-dire l'endroit où les chefs d'État et de gouvernement arrivent les uns après les autres et s'adressent à la presse avant de se réunir à huis clos. Alors vous avez été extrêmement impressionné par le Justus Lipsius, le bâtiment du siège principal du Conseil, avec l'immense salle de presse. Hein, vous la dessinez d'ailleurs sur une double page. Tout de suite, le côté Babel, et c'est le titre de votre album, nous saute aux yeux, nous lecteurs.
Et bien, tout de suite, parce que je suis arrivé à Bruxelles, et puis bon, je ne connaissais pas en plus les bâtiments, à quoi ils ressemblaient. Et donc, la première personne à qui je m'adresse, je lui dis j'aimerais bien rentrer dans ce Conseil européen, vous savez où c'est? Et il me répond quelque chose en roumain. Et je me suis aperçu à ce moment-là de la dimension internationale. Et on rentre dans cette énorme salle de presse que je dessine sur une double page, où on entend parler les 24 langues de l'Union européenne. Et là, on se dit on est tout petit. Et puis, il va y avoir énormément de sujets à traiter.
Alors, il y a une seule bulle en français, brouhaha. Et vous avez traduit le mot dans les 23 autres langues, c'est ça?
C'est
avec
ça.
Avec des typographies singulières.
Oui, alors comment rendre en bande dessinée, rendre compte justement qu'il y a différents langages et faire en sorte qu'il y ait différentes incompréhensions et autres. Pour les lecteurs français, je me suis rappelé les albums d'Astérix et Obélix quand ils partent en Scandinavie en péninsule ibérique ou quand ils vont voir des Grecs. À chaque fois, il y a une typo qui change et j'ai dit à mes éditeurs, on va mettre en place ce système-là, on va changer de typo, on va faire ces petits clins d'œil à Astérix, et puis on va partir dans cette aventure et représenter du coup ces 24 langues différentes. If you're going to San Francisco,
Scott McKenzie dans VMDN sur RFI et la chanson est dans l'album Coco Pelo lorsque vous accompagnez le commissaire français, le commissaire au marché intérieur en voyage en Californie à San Francisco. En l'occurrence, Thierry Breton très enjoué, on dirait presque un moniteur de colonie de vacances dans le minibus. Hein, c'est une scène très étonnante, il est un peu flamboyant, c'est un vrai politique. Est-ce que vous diriez que c'est un commissaire très français ?
Bien sûr que c'est un commissaire très français. Je me suis aperçu lors de cette aventure que nous, les Français, étions pris pour de sacrés arrogants quand même à Bruxelles.
C'est une légende ou c'est une réalité ?
Non, c'est une réalité parce que beaucoup me l'ont dit. Et puis même quand je rencontre un député polonais, il me le rappelle et il me dit « Vous savez, vous les Français, vous êtes des arrogants. Vous n'arrêtez pas de voir la Pologne comme un pays d'Europe de l'Est alors que nous, nous sommes un pays d'Europe centrale. » Et puis Thierry Breton, il a quand même ce côté-là. C'est vrai que je l'ai croqué justement dans un bureau où à un moment, je me faufile. Il voit la vice-gouverneure de Californie et puis il commence à dire « We are the biggest democracy of the world » avec son accent très français, etc. En disant « Nous sommes les meilleurs ». En gros, face aux États-Unis, il montrait un petit peu les muscles. Et la vice-gouverneure qui était là « Oui, sure.
» Alors, il y a aussi Franz Timmermans qui était à l'époque le commissaire chargé de l'action pour le climat, un néerlandais. Hein. Et puis, il y a aussi Emmanuel Macron. Alors, vous avez intégré donc, son équipe lors du sommet européen de décembre 2022. Alors l'impression qui se dégage quand même de toutes ces longues heures de négociations, c'est que dans la délégation française, on pense tout le temps à manger. Soit on mange, soit on pense à manger.
Oui, bah c'est très français ça.
Ça aussi pour le
coup.
On
a faim tout le temps.
Voilà, autre étonnement aussi, cette histoire de mallette nucléaire. Elle n'est pas toujours à votre avantage, cette anecdote, vous pouvez nous raconter quand même, Coco Pelo.
En fait, le président Macron est toujours accompagné de son aide de camp avec ses mallettes nucléaires. Donc effectivement, à un moment, je me dis, j'ai envie de savoir si c'est lourd ou pas. Et puis son aide de camp dit... Bah tiens, si tu veux, tu peux essayer.
Incroyable.
Et donc moi, je prends la mallette nucléaire. Alors j'imagine dans l'album, effectivement, partir, taper les codes et puis envoyer une bombe nucléaire directement sur le palais présidentiel de Poutine pour faire la petite blague. Mais en fait, Emmanuel Macron en fait, se retourne à ce moment-là, me voit avec la mallette nucléaire entre les mains. Et je lui dis, président, je vous ai pris la mallette nucléaire. Et il me dit, ça, les codes nucléaires, vous n'allez rien en faire. Quoi.
Alors le cœur du fonctionnement européen, Coco Pelo, c'est la recherche du compromis, hein, le jeu des tractations, des concessions, des renvois d'ascenseurs, des coalitions qui se forment et se déforment. La devise de l'Union européenne, c'est « unie dans la diversité ». Est-ce que la devise s'applique au quotidien, d'après vous ?
Oui, bien sûr, parce que bon, on parle quand même de 24 langues différentes qui doivent être traduites par des centaines et des centaines d'interprètes et 27 nationalités qui viennent de cultures différentes et qui n'ont pas la même manière de voir justement cette Union européenne. Donc oui, évidemment.
Alors cette Union européenne, elle est démocratique ou elle est bureaucratique ?
Elle est un peu des deux. Cette Union européenne reste démocratique quand on regarde le fonctionnement, parce que c'est l'articulation entre le Conseil européen et puis le Parlement européen. Le Parlement européen, on va voter pour eux le 9 juin. Et le Conseil européen, il rassemble les différents chefs d'État. Et donc nous, Emmanuel Macron, on l'élit directement. Donc finalement, c'est quand même de la démocratie. Après, là où je fais mes critiques dans l'album, c'est que certaines négociations sont quand même très opaques. Il y a parfois un manque de transparence, un manque aussi de pression populaire et médiatique, comme on peut le voir avec nos députés en France ou notre politique français. Et ça, on peut le déplorer.
Vous aviez l'impression d'être dans une bulle, on dit toujours, les eurocrates sont complètement coupés des réalités de terrain des différents pays. Vous l'avez ressenti ça ou pas du tout ?
Ils ne sont pas si coupés que ça, en vérité, parce qu'ils ont quand même de la famille dans les différents pays. Mais c'est vrai que ce sont des gens qui ont fait Erasmus, qui ont fait le Collège d'Europe, qui ont fait à peu près les mêmes études, qui ont fréquenté à peu près les mêmes milieux. Et justement, il ne faut pas qu'il y ait cette bulle qui s'enferme. Et c'est pour ça que moi, je voulais aussi rendre accessible cette Union européenne à travers cet album, pour que le citoyen et d'autres personnes puissent regarder d'un peu plus près ce qui se passe à Bruxelles et à Strasbourg.
Est-ce que vous diriez que l'Europe est transparente ?
L'Europe, alors, elle est assez transparente, à part dans les négociations, effectivement. Quand il y a des trilogues, on en parlait tout à l'heure, quand c'est les trois institutions qui doivent se mettre d'accord, tous les trilogues se passent avec une porte fermée. Et ces discussions durent jusqu'à 4-5 heures du matin. À la fin, ils sont parfois que trois dans une salle. Et c'est vrai que ça a fait ressurgir quand même certaines choses qui n'étaient pas forcément terribles. On peut citer le Qatargate, quand j'étais au Parlement européen, où on a retrouvé des valises de billets chez une eurodéputée grecque. ça, c'était peut-être dû aussi à l'opacité de ces négociations-là.
Allez, encore une curiosité que Copello sur la page 97. Ça, elle m'a beaucoup étonné, cette page 97. C'est une pleine page sur laquelle vous avez dessiné la plage rouge au cœur de Moscou et un homme aux sourcils broussailleux avec un panier à bretelles et cette phrase que nous rendons à son propriétaire.
Si j'ai envie de vendre des rillettes sur la place rouge, je vendrai des rillettes sur la place rouge.
Alors, cette phrase, elle a été prononcée par l'ancien Premier ministre français François Fillon, non pas à Bruxelles, non pas à Strasbourg devant le Parlement européen, mais à Paris, devant la commission d'enquête parlementaire française sur les ingérences étrangères. Pourquoi est-ce que vous avez intégré cette phrase et donc cette planche à votre récit ?
Parce que les ingérences étrangères font partie, malheureusement, du quotidien de cette Union européenne, surtout les ingérences étrangères russes. Et on le voit même, c'est tombé dans la presse, je ne sais plus, hier ou avant-hier, du côté de l'AFD en Allemagne, qui sont les alliés de Marine Le Pen au Parlement européen, qui sont touchés par des ingérences russes et des ingérences chinoises. Et c'est vrai que nous, les politiques français, moi, les Polonais, qui sont très anti-russes, me disaient « attention ». Vous, entre Marine Le Pen avec ses emprunts russes, entre François Fillon avec ce qu'il a dit justement, là l'extrait qu'on vient de citer, la Russie est là et les ingérences peuvent avoir lieu.
Alors, à propos de Marine Le Pen, elle est dans l'album, hein, page 6, et vous l'avez dessiné avec un œil fermé, petit clin d'œil, sans mauvais jeu de mots, à son père.
Oui, petit clin d'œil à son père avec un gros menton. Mais c'est vrai qu'avec la bande dessinée, on peut s'amuser avec de la caricature. C'est ça qui est sympa.
Vous allez voter aux prochaines élections européennes. Copello, je ne vais pas vous demander pour qui, mais vous allez voter, ça c'est clair. Quel est l'argument, le dernier argument que vous pourriez donner à ceux qui nous écoutent et qui seraient européens et qui préféraient peut-être rester chez eux ? L'argument pour les convaincre d'aller voter ?
L'argument d'aller voter, alors c'est peut-être déjà de dire qu'on va défendre une voix française au Parlement européen et la voix de la France compte et qu'il faut qu'on amène des eurodéputés qui soient prêts à faire quand même des compromis et à travailler ensemble pour faire avancer cette Union européenne-là sur les différents sujets qui nous touchent toutes et tous. Changement climatique, crise de l'énergie, crise migratoire. On a besoin d'une vision européenne et pour ça, on a besoin de la voix citoyenne.
Merci beaucoup, Copello. La Tour de Babel voyage au cœur du bazar européen, une coédition d'Argo et Seuil. Emo, Acide Arabe dans VMDN et dans la playlist RFI de ce mois d'avril. Allez, on part en Tunisie à présent où se tient jusqu'au 15 mai une exposition consacrée à une maison, la Villa Bezeau, du nom de l'industriel français qui en a passé la commande au célèbre architecte franco-helvète Le Corbusier. Près d'un siècle après sa construction, notre correspondante Amira Swilem nous raconte l'histoire de cette mystérieuse demeure, la seule villa d'ailleurs imaginée par Le Corbusier en terre africaine, un bâtiment qui commence tout juste à livrer ses secrets.
C'est une villa dont le tout Tunis parle.
Elle constitue, vous le savez tous, le seul bâtiment de Le Corbusier réalisé sur le continent africain.
C'est les perspectives à l'intérieur qui donnent le charme de ce projet.
Une bâtisse pourtant que personne n'a visitée. Ni Le Corbusier qui l'a conçu à distance, ni le public.
Ça arrive, hein ?
Réunis en nombre ce jour-là dans le centre de Tunis. Et mieux vaut ne pas trop s'en approcher. Tim Benton, historien de l'architecture, peut en témoigner.
En fait, hier, nous sommes approchés le long de la plage et il y avait deux messieurs avec des fusils qui nous regardaient avec les jumelles. Et donc, sans peur, je me suis introduit. Je suis le monsieur qui a écrit l'histoire de cette belle villa. Il y a une exposition qui se prépare. Mais bon, ce n'était pas possible de faire des photos.
Avant d'être nationalisé par l'État tunisien qui y a installé un département des renseignements, la Villa Bezeau a été le rêve d'un industriel français établi en Tunisie au début du siècle dernier. En plein protectorat français, il jette son dévolu sur un terrain situé à Carthage, à flanc de colline, avec pour voisine directe la sublime baie de Tunis.
En fait, j'aime beaucoup cette photo parce qu'elle est à la fois, on est dans la maison et nous regardons ce paysage. On a l'impression d'être vraiment sur le pont d'un bateau. Et c'est toute la magie de cette maison, ces terrasses qui font tout le pourtour de la maison et desquelles on peut avoir toujours la vue sur la Grande Bleue et les différents cadrages sur Sidi Bou Saïd, la Goulette, Carthage, etc.
Cheicha Atallah est architecte. Elle qui passe son temps entre Tunis et Paris est la cheville ouvrière de cette exposition. Quand il charge Le Corbusier de ce projet, Lucien Bezeau a déjà une idée très arrêtée de la villa de ses rêves. Elle doit être en mesure d'accueillir sa très grande famille tout en lui servant de faire-valoir professionnel. Avec deux impératifs concrets, protéger la maison des vents chauds et lui permettre une aération naturelle. Très sûr de lui, l'industriel va jusqu'à plancher lui-même sur les premiers plans qu'il communique au Corbusier.
Son projet pour Le Corbusier adapté. C'est presque unique, ça.
L'architecte iconique n'en a que faire et propose des projets alternatifs. S'ensuit un combat de coq polissé par missives interposées.
Monsieur, je reçois à l'instant vos plans. Je suis désolé de voir que vous n'avez tenu aucun, voyez, que très peu compte des indications précises que je vous avais données. Je vous prie donc de vouloir bien les étudier immédiatement.
Il est dur, monsieur Bezeau.
Au-delà de cette villa conçue par Le Corbusier, les organisateurs de l'exposition souhaitent profiter de cet événement pour replacer Tunis sur la carte des villes architecturalement attrayantes.
Oui, en fait, c'est exactement ça. Donc, la Villa Bezeau devient un prétexte au sens large pour mettre en avant d'autres trésors du patrimoine moderne en Tunisie.
Est-ce que vous avez l'impression que Tunis est une capitale à laquelle les architectes ne s'intéressent pas assez ?
Oui, je pense. Oui, mais il est temps que ça change.
Amira Swilem à Tunis dans VMDN. C'est jeudi, c'est Café Polar.
C'est l'heure de Café Polar.
Thank you. Bonjour Catherine Fruchon-Toussaint.
Bonjour Jean-François, bonjour à toutes et à tous.
Alors, qu'est-ce que vous nous avez concocté aujourd'hui pour votre Café Polar ?
Eh bien, j'ai choisi un roman noir spécialement pour vous. Ah. Il s'intitule Priya, le silence des nonnes. Alors non, ce n'est pas le titre qui m'a fait penser à vous.
D'accord.
Mais c'est son personnage principal. Elle s'appelle donc Priya Darmesh et c'est une commissaire de police originaire de La Réunion. Région qui vous est chère, n'est-ce pas ?
Ah bah oui, clairement, c'est mon île, c'est mon paradis. Là, vous me rendez nostalgique, Catherine.
Alors, le roman ne se passe pas à La Réunion, mais il y a un lien, évidemment. Et j'ai donc demandé à son autrice de nous présenter sa protagoniste, avec qui elle a d'ailleurs quelques similarités, Marie Capron.
Priya Darmesh, c'est une commissaire de police réunionnaise d'origine indienne qui a 54 balais, un caractère bien trempé. C'est une femme forte, en même temps ça pourrait être votre voisine de palier, votre meilleure amie, votre belle-sœur. Les lecteurs me disent que c'est une femme attachante. Voilà.
Comment est né ce personnage ? Quel est votre lien avec La Réunion par exemple ?
Alors, je vis à La Réunion depuis 20 ans. Je travaille avec des réunionnaises et donc pour moi ça faisait sens de choisir comme héroïne une commissaire réunionnaise. Et en plus, Priya Darmesh est une réunionnaise d'origine indienne et c'est une communauté qui me fascine et m'effraie en même temps et je peux vous dire pourquoi.
Ben, dites-le nous alors.
Voilà, alors qui me fascine parce que ces femmes sont très belles, très fortes, courageuses. Elles sont aussi soumises à beaucoup de pression de par la religion et la famille, puisqu'il y a quand même la culture indienne qui fait que la femme n'est pas forcément libérée. Aujourd'hui, les réunionnaises indiennes sont des femmes qui travaillent, qui se libèrent. Et ce qui m'effraie, c'est la famille. Parce que voyez-vous, les familles nombreuses ont tendance à générer chez moi un peu d'angoisse. Et Priya, elle aussi, est une héroïne qui a quitté sa nombreuse famille pour venir être déracinée en métropole. Moi, j'ai quitté la métropole pour me déraciner à La Réunion. Donc vous voyez bien qu'on a quelques points communs toutes les deux.
Donc Catherine, on a une commissaire à fort caractère et qui est amenée ici à résoudre une affaire de famille particulièrement sanglante, c'est bien ça ?
Oui, comme dans son premier roman, aussi publié aux éditions Viviane Ami, Marie Capron imagine des scènes de crime à la fois spectaculaires mais aussi atroces, puisqu'ici la fiction s'ouvre sur la découverte de 12 religieuses, 12 nonnes, qui se sont entre-dévorées, comme possédées par une drogue hallucinogène. Et le carnage se reproduit à deux autres reprises dans un club libertin et pire, dans une école. Autant dire que Priya Darmesh doit avoir le cœur bien accroché pour enquêter sur ces meurtres en série qui ne sont pas loin du gore parfois. Mais pourquoi tant de violence et tant de sang, Marie Capron ?
Mon mécanisme d'écriture, c'est la terreur. Je m'inspire de la terreur, de mes terreurs, pour écrire. Donc je ne triche pas. J'écris avec mes tripes. D'ailleurs, j'ai été charcutière. Et je vais au bout de mes terreurs. Enfin, je veux dire, quand on écrit du polar, on n'est pas là pour tricher avec le lecteur. Et donc, c'est une manière de les exorciser aussi. Et je ne me rends même pas compte que ce soit si violent que ça, pour tout vous dire. C'est toujours étonnant. J'ai cette période d'écriture où je ne vois personne et ça dure un an. Après, je redécouvre les lecteurs et les lecteurs me disent « Dis donc, vous n'y allez pas avec le dos de la cuillère. » Mais lorsque j'écris, je ne me demande pas si je franchis un degré d'horreur ou pas. Je suis dans ma grotte et avec beaucoup de sincérité et de discipline, j'écris sans tricher. Et ça donne ça.
Pour vous, il n'y a jamais de limite, Marie Capron ?
D'abord, nous n'inventerons plus rien dans le domaine de l'horreur. Il suffit de regarder l'histoire, il suffit de lire l'Antiquité. Enfin, je veux dire, il suffit de s'intéresser au génocide. Tout a déjà été fait. Donc moi, je n'invente rien. C'est la première chose. Effectivement, je m'attaque à la problématique de l'enfance. Et les enfants peuvent être des victimes parce que c'est ce qui me terrorise le plus. Et parce que j'ai eu une enfance un peu particulière aussi. Alors j'essaie de faire du développement durable et de transformer ce que j'ai pu vivre. Alors je ne vous dis pas que c'est autobiographique, mais enfin bon, j'ai vécu deux, trois petites choses. Et aujourd'hui, maintenant que je suis adulte, je réexploite ces terreurs et c'est bien parce que cette fois-ci, je suis aux commandes. Et puis grâce à Priya, je suis aux commandes avec une femme qui a quand même envie de rétablir la justice. Alors ça fait du bien.
Bon, ça donne quand même un petit peu la chair de poule et pas qu'un peu, Catherine. Alors, je sais que vous aimez l'horreur, hein, donc certains passages, visiblement, vous ont beaucoup plu, mais au-delà de ça, qu'est-ce que vous avez apprécié dans le roman ?
En fait, c'est un mélange d'électrochoc et d'humour noir. Et c'est vrai que c'est plutôt du côté de Priya, plus que de l'intrigue criminelle, que mon cœur penche. D'abord parce que c'est une femme qui, en plus de ses activités professionnelles, doit aussi gérer sa propre mère et une adolescente qu'elle essaye d'adopter, et tout ça en étant célibataire et chef de groupe. Heureusement, elle est soutenue et protégée par son patron. Et oui, un homme qui, pour une fois, dans le roman noir, n'est ni macho ni sexiste. Au contraire, c'est un grand flic, compréhensif. Bref, une denrée rare, comme je l'ai fait remarquer à Marie Capron.
Alors là, j'adore ce que vous me dites, parce que vous êtes la première à me dire ça. Parce que souvent, vous savez, je travaille avec un comité de lecture. Quand je suis en phase d'écriture, je fais relire mes chapitres à 4 amis en qui j'ai confiance. Et je leur demande à chaque chapitre de me faire des retours. Et ce qui ressort, c'est attention, ton personnage du boss, il est un peu caricatural. C'est un peu le vieux macho, comme on le voyait dans les vieux films des années 70, un peu sexiste, etc. Et c'est la raison pour laquelle, dans le deuxième tome, je l'ai laissé courir, ce Maurice. Et il a raconté un petit peu ce qu'il avait, lui aussi, dans les tripes. Et effectivement, je me suis rendu compte que c'était... Alors, c'est pas un homme déconstruit, comme on dit aujourd'hui, mais c'est un personnage sensible, cabossé, et ça n'est pas un héros. Mais c'est ça que j'aime dans cette équipe, c'est que... Qu'il s'agisse de Priya, de Lison, du boss, ce sont des personnages qui ont des failles. Et c'est ça qui est intéressant. Les super-héros, ça ne m'intéresse pas. Et d'ailleurs, je n'en connais pas.
Moi non plus.
Priya, le silence des nonnes, c'est donc la deuxième aventure de Priya d'Armèche, originaire de La Réunion, comme on le disait. D'ailleurs, est-ce que Marie Capron est élue et appréciée là-bas ?
Eh bien, on va lui demander.
Énormément. Et j'ai énormément de chance d'avoir un soutien immense à La Réunion de la part des libraires, des journalistes, des réunionnais. Et c'est une grande fierté parce que même si je ne suis pas réunionnaise, je vis sur cette terre. C'est ma terre de cœur, ça fait 20 ans que j'y suis. Donc voilà, ce n'est pas mon île, je n'ai pas une mentalité colonialiste. C'est une île qui m'a accueillie et je lui en suis infiniment reconnaissante.
Elle vous a accueilli et elle accueille aussi vos livres.
Mais elle accueille mes livres d'une manière formidable. Enfin, je veux dire, à La Réunion, ce sont les premiers à commander, à faire venir des caisses de Priya. Et d'ailleurs, les lectrices sont touchées du fait qu'elles peuvent aussi s'identifier à des bonnes femmes qui ont leur âge, qui ont un peu leur histoire et ça leur fait plaisir. Et puis moi aussi, je m'identifie à Priya à plein d'égards. Voilà des cloches pour célébrer la venue de Priya.
J'ai l'impression de rentrer dans votre roman avec ces cloches-là.
Mais c'est pour ça, le Carmel des nonnes,
le
on serait dans la première
nonnes,
scène.
C'est la première scène. Ouais, c'est assez troublant. Et oui, miracle de la radio ou pas, il est vrai que les cloches ont sonné à la fin de ma rencontre avec l'autrice, comme si la fiction faisait un clin d'œil à la réalité. J'en frémis encore. Bref, si vous aussi vous voulez frissonner, il faut lire Priya, le silence des nonnes aux éditions Viviane Ami. Et comme d'habitude, l'intégralité de l'entretien avec Marie Capron est à écouter sur la page du podcast Café Polar.
C'est jeudi, demain c'est donc vendredi, et jeudi c'est jour de Café Polar, vendredi c'est jour de Littérature sans frontières, LSF comme on dit dans notre jargon. Catherine, votre invitée demain.
Demain je reçois Dorcy Rugamba, acteur, dramaturge et écrivain rwandais, pour son livre, son témoignage « Ewa Rwanda », un hommage à toute sa famille disparue en 1994 lors du génocide, il y a 30 ans exactement. Et vous Jean-François ?
Eh bien nous recevrons le saxophoniste et compositeur Laurent Barden pour Eden Beach Club, son premier projet en tant que leader du groupe Tigre d'eau douce. On va donc se prélasser sur un transat au bord de la piscine. C'est pas du tout l'atmosphère Café Polar, mais je sais que vous aimez ça aussi, hein, je crois.
Évidemment.
Catherine, alors évidemment, on se prélasse au bord de la piscine avec un bon polar, tant qu'à faire.
Hein.
Il n'y a pas de raison. Dans une poignée de secondes, l'info sur RFI, le retour du journal en français facile. À demain, et vous m'en direz des nouvelles.
Pour nous faire partager vos bonheurs culturels et artistiques, écrivez-nous à vmdn@rfi.fr ou sur les réseaux sociaux.